Vous avez les salutations de Mathieu Désil et sa femme Janine, ceux qui les ont connus, qui est pasteur à l'église baptiste de Limoges et que j'ai pu revoir. Et puis je suis content aussi de revoir Billy, candidat au baptême pour le mois d'octobre. Et puis on est content de retrouver Martin aussi. Et notre frère du Brésil aussi qui est revenu sans son épouse, qui a dû rester. Ah, toi, tu étais tout le temps là pendant les vacances. Le pauvre. D'accord, c'est ton épouse qui est partie. C'est moi qui n'étais pas là, en fait. C'est moi qui suis revenu. Mais en tout cas, vraiment, on est content de vous voir tous. Si vous êtes visiteurs, n'hésitez pas si vous avez des questions ou un besoin de prière. Le lundi, nous intercédons les uns pour les autres et c'est un moment très important. Je vois aussi les parents de Oana. C'est bien de les voir régulièrement de la Roumanie. Priez encore pour Alain Préchac, donc il est toujours à l'hôpital en observation, mais ça va mieux, il a retrouvé la parole, m'a dit Michel, et ils ne savent pas ce qu'il a eu exactement, mais ce n'est pas un AVC, donc c'est probablement moins grave. Et aussi, priez pour Marie-Thérèse, c'est cassé ou c'est foulé ou... Et ça fait mal ou...
Là, ça va.
Là, ça va. Ça doit être dur pour dormir. Donc on peut prier pour Marie-Thérèse, on peut remercier Dieu pour Bernard qui a échappé à des blessures dans cet accident de voiture. Et puis prier pour Alzenir toujours, voilà. Et je n'ai oublié personne, mais en tout cas il y a beaucoup de besoins en ce moment. Et ceux qui cherchent du travail également. Et le message de ce matin est... veut être une exhortation, un encouragement. Le texte est dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1, versets 27-28. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1, versets 27 et 28. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Cette lettre est écrite à des chrétiens qui vivaient en Asie mineure, à Philippe, et ils étaient persécutés. Et celui qui écrit la lettre, l'apôtre Paul, était lui-même en prison. Et c'est donc une situation difficile, c'est pour ça qu'il parle de combattre. Ces chrétiens, pour rester dans la foi et rester chrétiens, ils devaient combattre pour l'évangile parce qu'ils faisaient face à des persécutions, des personnes qui voulaient les empêcher de proclamer la bonne nouvelle et même d'être chrétien, tout court. Et nous aussi, nous avons besoin de combattre pour l'évangile. Il y a un combat spirituel, et c'est l'exhortation ici, dans cet épître. Il nous exhorte à combattre d'une même âme pour la foi de l'évangile. Il dit « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile ». Le mot qu'il utilise, c'est le mot « Soyez des bons citoyens ». De l'évangile. C'est le mot citoyen. On a parlé encore des citoyens ce matin. Ça n'apparaît pas en français, mais c'est en grec. Soyez des bons citoyens du ciel, des bons citoyens de l'évangile. C'est-à-dire, le Seigneur nous a rachetés à un grand prix. Désormais, nous appartenons à Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons donc nous comporter tels que des enfants de Dieu. On ne se comporte pas comme les gens du monde. On n'a pas les mêmes valeurs, comme disait une vieille pub. Nous avons d'autres valeurs, des valeurs saintes, des valeurs spirituelles, les valeurs de la Bible, les valeurs du Seigneur Jésus. Nous devons ressembler à Christ. Et quelquefois on se dit, mais c'est dur, il y a beaucoup de tentations, le monde est présent partout, moi je suis tout seul dans ma situation. Mais le Seigneur nous donne toute la grâce, toute la force, toute l'amour nécessaire pour mener cette vie chrétienne, pour marcher d'une manière digne, pour qu'on représente le ciel. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Et donc, quand on marche sur la terre, on représente le Seigneur Jésus, partout où on va. Regardez les ambassadeurs des différents pays. Hein. Ils vont à l'étranger, ils vivent à l'étranger et ils redonnent la parole exactement de leur gouvernement. Hein. Ils disent, voilà, c'est ça que notre gouvernement pense et veut. Et ils ont intérêt à dire exactement ce que le gouvernement dit. Et nous, nous sommes ambassadeurs de Christ. Nous ne disons pas ce que nous pensons, mais nous disons ce que Dieu dit. Nous apportons la parole de Dieu et nous représentons le Seigneur. Si nous avons un mauvais comportement, ça retombe sur le nom du Seigneur. S'il y a si peu de chrétiens en France, c'est parce que les chrétiens des temps passés n'ont pas été dignes de l'Évangile. Et les gens disent, je ne veux pas entendre parler de Dieu, c'est fini. Je parlais encore avec des personnes qui ont été élevées chez les sœurs. Il y a une certaine époque hein, où beaucoup de filles et beaucoup de garçons ont été élevés chez les sœurs et chez les frères. C'est-à-dire des curés et des sœurs, des bonnes sœurs. Quelquefois, ça s'est bien passé, mais très souvent, ils ont souffert. Ils sont marqués. Ils ont dit, on apprenait par cœur, on nous tapait dessus pour qu'on retienne, on n'avait pas de communion avec Dieu, il fallait tout mémoriser, tout connaître, mais on ne savait pas pourquoi, il fallait aller à l'église, il fallait faire ci, faire ça. Et ces personnes ont été marquées, beaucoup sont devenus non seulement athées, mais anti-chrétiens, anti-cléricales. Hein, parce que des chrétiens n'ont pas marché d'une manière digne de l'évangile, et c'est notre responsabilité. Et puis il dit, demeurez ferme dans un même esprit, demeurez ferme, il ne faut pas se laisser ébranler, il ne faut pas se laisser décourager. L'épître aux Philippiens, c'est l'épître de la joie dans l'épreuve. Et il y a quelqu'un qui a fait un message sur Philippiens, il appelait ce message « les voleurs de joie ». Il y a des choses ou des circonstances ou des personnes qui veulent nous voler notre joie. Parce que la joie du chrétien, la Bible dit, c'est la joie de l'Éternel, c'est notre force. Et donc, si on se laisse voler notre joie, on perd nos forces, comme Samson a perdu ses forces. Et le chrétien doit combattre pour garder sa joie. Il doit siffloter des cantiques, il doit s'encourager avec les frères et sœurs, il doit penser au Seigneur, il doit prier, veiller, il doit demeurer ferme. Et chaque fois qu'il y a un voleur de joie qui vient, il dit « Non, 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 toi tu ne m'auras pas, tu ne voleras pas mon trésor ». J'ai le salut, j'ai la joie du salut. Tu ne me voleras pas la joie du salut. Et puis il dit, combattez d'une même âme pour l'évangile. Il faut qu'on se serre les coudes dans la bataille. Si Dieu a pensé à créer son corps, l'Église, ce n'est pas pour rien. C'est parce que dans le corps de Christ, on s'encourage les uns les autres. On se soutient, on prie les uns pour les autres. De même qu'une braise qu'on laisse toute seule, s'éteint rapidement. Une braise qui est entourée d'autres braises va durer beaucoup plus longtemps. Et l'Église a ce rôle d'apporter l'amour, la grâce, l'encouragement, les prières, tout ce dont on a besoin pour, dans ce combat. Et encore en France, nous ne sommes pas persécutés physiquement comme c'est le cas dans d'autres pays. Il y a de plus en plus de chrétiens dans le monde qui sont persécutés physiquement, qui sont pourchassés, tués, emprisonnés. Et nous devons penser à eux aussi et profiter de notre liberté. Parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand elle va durer. Il y a plein de versets, et j'ai été touché dans le Nouveau Testament. Dieu nous parle beaucoup du combat. Et j'aimerais vous lire quelques versets comme ça que j'ai trouvés dans le Nouveau Testament. Juste une liste, vous n'avez qu'à écouter. « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Romains 15, 30. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Colossiens 4, 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. 1 Timothée 6, verset 12. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Hébreux 10, 32. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Jude 1, verset 3. Nous sommes appelés à combattre, mais pas à combattre avec haine, pas à combattre avec violence, avec nos poings ou des armes. Nous combattons avec la prière, avec l'évangile, avec l'amour du Seigneur. Mais il y a un combat. Et surtout, on est appelé à combattre pour se défendre. Parce que nous avons des ennemis. Quels sont nos ennemis? On le sait bien. Éphésiens chapitre 6 nous dit, nos ennemis, ce ne sont pas les êtres humains. Nos frères humains ne sont pas nos ennemis. Même s'ils ont l'air de l'être parfois. Même quelqu'un qui vient avec un sabre pour nous couper la tête en disant « je vais te tuer parce que tu es chrétien », ce n'est pas lui vraiment notre ennemi. C'est ce que Christ a dit, hein, il dit « vous devez aimer vos ennemis, vous devez tendre l'autre joue quand on vous a frappé sur la première joue ». Notre véritable ennemi, Éphésiens 6, c'est Satan et ses esprits méchants dans les lieux célestes, hein, les démons. Ce sont eux qui cherchent à nous abattre. Et bien sûr, ils vont utiliser des êtres humains. Comme dans le cas de Job, hein. Job, il y a des brigands qui sont venus tout détruire dans sa propriété, tuer ses enfants. Satan peut même utiliser la maladie pour nous abattre, nous décourager, comme il a fait dans le cas de Job également. Mais si nous sommes un enfant de Dieu, Dieu est souverain au-dessus de tout ça. Et il peut permettre qu'on soit touché par Satan, mais jamais abattu. Et même au contraire, dans le cas de Job, si Dieu a permis que Job soit touché, c'était pour vaincre Satan. C'était pour que Job glorifie Dieu dans la pire des épreuves qu'un homme ait jamais subie, à part le Seigneur Jésus. Parce que Job a glorifié Dieu. Il a eu des moments durs, hein. Il a eu des moments où il dit « j'en peux plus, je ne comprends pas pourquoi je suis accablé ». Mais il n'a jamais renié son Dieu. Sa femme voulait qu'il le renie, il a dit non. Ses amis ont dit, si tu as tout ça, c'est que tu dois être un grand pécheur, tu as bien mérité tout ce qui t'arrive. Et eh bien, il ne s'est pas laissé abattre, il a continué à chercher Dieu, à dire, Seigneur, explique-moi, je ne comprends rien. Et finalement, ce qu'il a découvert et compris, ce que Dieu lui a révélé à la fin du livre de Job, c'est que tout cela était pour la gloire de Dieu, pour qu'il connaisse son Dieu beaucoup mieux, d'une façon totalement unique, à travers l'épreuve, et aussi pour que Satan soit humilié. Que Satan ne puisse pas dire « j'ai eu un croyant ». Non, il n'a pas eu Job. Et j'espère qu'il ne nous aura pas, nous non plus. Mais il y a des ennemis intérieurs. Satan, des fois, n'a pas beaucoup de travail à faire, parce qu'on fait le travail pour lui. Et ça, c'est vraiment malheureux. J'aime bien citer cette phrase, quand les chrétiens dorment, je pense que c'est Luther qui l'a dit, Satan marche sur la pointe des pieds pour ne pas les réveiller. C'est-à-dire, quand on dort dans sa foi, quand on ne vit plus pour le Seigneur, Satan ne va pas vous embêter, il va dire, très bien, continue comme ça. Le péché, bien sûr, la désobéissance, c'est ce qui nous éloigne du Seigneur et c'est ce qui est notre pire ennemi. Lorsque nous désobéissons à Dieu, lorsque on n'obéit pas, on sait bien ce qu'il faut faire et on ne le fait pas. On connaît la Bible, parfois on la connaît même très bien, mais si on n'obéit pas à ce qu'elle dit, on est dans la désobéissance. Et là, on est son propre ennemi et on se bat tout seul. Un autre ennemi, c'est le relâchement, la négligence. Le proverbe dit « celui qui se relâche est le frère de celui qui... » détruit. Le relâchement est synonyme de destruction. On peut dire, mais non, un petit relâchement, c'est pas grave. Un petit relâchement, c'est le commencement de la fin, de la destruction. Au lieu de bâtir, vous êtes en train de démolir par votre relâchement, votre négligence. Combien de gens sont morts à cause des négligences? Et nous, chrétiens, nous ne devons pas être négligents ni relâchés. David, le roi David, un homme de Dieu, un homme près de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu, dit la Bible. Il était dans plein de batailles, plein de combats et plein de foi. Et puis un jour, après qu'il soit devenu roi, il s'est relâché. Il était dans son palais pendant que ses hommes étaient à la frontière en train de lutter contre les ennemis, de les retenir. Et lui, il est monté sur le toit de son palais et il a vu une certaine femme, Bathsheba. Et il s'est laissé aller à la convoiter. Comme il était roi, il l'a fait venir, il a couché avec elle, elle est tombée enceinte, l'enfant est mort. Il a fait tuer son mari pour qu'il ne sache jamais. Et Dieu l'a jugé pendant des années, châtié. Il s'est relâché. Quand David s'est relâché, il n'a pas dit « Bon, allez, je vais coucher avec une femme étrangère, je vais lui faire un enfant et je vais tuer son mari. » Évidemment qu'il n'a pas pensé ça. Mais c'est le résultat de son relâchement que je vous ai cité là. Et quand on se relâche, on dit « Oh, c'est pas trop grave. » Si on se relâche dans la prière pour les frères et sœurs, les frères et sœurs vont commencer à faiblir. Souvenez-vous de Moïse qui levait les bras pour prier pour que la bataille soit gagnée dans la vallée avec Josué contre Amalek. Et à un moment, Moïse était fatigué d'avoir les bras en l'air et il a baissé les bras. Et là, les ennemis ont commencé à reprendre le dessus. Et les frères ont dit « Il faut tenir les bras de Moïse !» Alors ils ont soutenu ses bras, d'où l'expression hein, « ne pas baisser les bras ». Un autre péché que nous commettons et qui est notre pire ennemi, c'est l'individualisme, de ne penser qu'à soi. Nous sommes dans un monde qui encourage cet individualisme. C'est moi d'abord. L'image la plus forte, je trouve, ce sont les selfies. Tout le monde se prend en photo lui-même. On n'a même plus besoin que les autres vous prennent. On se prend tout seul. Les téléphones, maintenant, sont fabriqués pour faire des selfies. Et le selfie, pour ceux qui ne savent pas, c'est se prendre en photo dans une situation quelconque, comme ça, dans le coin de l'appareil. Donc, maintenant, c'est même plus pour les amis, on ne prend plus en photo les amis, on se prend soi-même, on s'aime, on s'adore, c'est le narcissisme, l'individualisme, et ça touche bien sûr les chrétiens, on est influencé par ça. Mais une église avec des individualistes ne va nulle part. Si c'est chacun de son côté, chacun pour soi, c'est ce qu'on a vécu pour certains dans l'église catholique. Hein. On allait à la messe, et puis on ne savait pas qui était son voisin, puis on repartait. Et puis, on ne s'encourageait pas, on ne se parlait pas, il n'y avait rien. Une église de Jésus-Christ, on doit être frères et sœurs, on doit s'aimer, on est un corps, on a besoin les uns des autres. La lâcheté aussi est notre pire ennemi. Le chrétien doit être courageux. Il doit affronter les situations par la foi. Pas par ses forces, parce qu'on n'a pas assez de force, mais par la grâce de Dieu. Nous avons des ennemis, mais nous avons des armes. Ici, il dit, hein, « Conduisez-vous d'une manière digne, soyez fermes, combattez d'une même âme. » Ça, c'est les armes du chrétien. D'abord, il faut saisir pleinement la vie chrétienne. « Conduisez-vous d'une manière digne. » On est trop souvent dans la défaite, on est des chrétiens qui ne saisissent pas tout ce qu'on a en Jésus-Christ. Si vous lisez à nouveau les épîtres Éphésiens, Philippiens, Paul priait pour que les chrétiens saisissent tout ce qu'ils ont. On a des forces extraordinaires en Jésus-Christ dans le Saint-Esprit. Si on a l'Esprit de Dieu, mais vous vous rendez compte d'avoir l'Esprit de Dieu en soi, ça veut dire que vous avez Dieu en vous. Ce n'est pas que vous êtes là tout seul dans la situation à essayer de... Vous avez Dieu avec vous et en vous. Il est le consolateur. C'est comme si vous aviez Jésus-Christ. Est-ce que ça vous encouragerait si le Seigneur Jésus était revenu sur terre et qu'il soit avec vous toute la journée? Est-ce que vous aimeriez ça? Qu'il vous accompagne au travail, dans les transports, quand vous mangez, quand vous dormez, il est là au pied de votre lit. Ah, ben il est là. Mais c'est l'Esprit de Christ en nous. Et ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas là. Le Seigneur est là, tout le temps. Il a dit « Je serai avec vous tous les jours ». Jusqu'à la fin du monde, tous les jours. Mais des fois, on oublie, parce qu'on ne le voit pas, on perd de vue le Seigneur, on est accaparé par les soucis, et on perd de vue tout ce qu'on a dans le Seigneur. Alors, il faut saisir la vie éternelle. Il faut vraiment vivre dignement. On a reçu de Christ tout pleinement. On a le salut éternel, c'est fixé, c'est certain. On ne peut pas le perdre. Si on a accepté le Seigneur Jésus, on est sauvé pour l'éternité. Est-ce que ce n'est pas un sujet de réjouissance perpétuelle? Je suis sauvé. Si je meurs là, si j'ai un accident de voiture et que je meurs, je vais au ciel. Si le Seigneur veut que je vive plus longtemps sur la terre, je vivrai plus longtemps. Mais s'il veut me reprendre, je suis prêt parce que je vais rencontrer mon Sauveur. C'est Paul qui écrivait « Je ne sais pas ce que je dois préférer. » Ou mourir, parce qu'il était en prison, il était condamné à mort. Donc il s'attendait d'un jour à l'autre à être décapité par les autorités romaines. Je ne sais pas si je dois chercher la mort, attendre la mort et qui va me permettre de voir le Seigneur face à face, ou si je dois rester avec vous plus longtemps pour vous encourager dans la foi. Il hésitait. Beaucoup d'entre nous, on n'hésite pas. On dit, moi, je veux rester sur la terre. Mais pourtant, si j'aime le Seigneur, mais je suis prêt à partir. Demeurez ferme, ça c'est notre deuxième arme. On doit veiller, prier, on doit être des chrétiens qui sont fermes, qui avancent, qui ne se laissent pas abattre. Et on doit être des chrétiens incorruptibles déjà. Vous connaissez l'histoire des incorruptibles ? À Chicago, il y avait Al Capone qui sévissait avec toute sa mafia. Et comment il arrivait à sévir aussi facilement ? C'est que toute la police était corrompue. Tous les policiers étaient avec lui parce qu'il les rémunérait grassement. D'ailleurs, la police de Chicago est toujours corrompue. Elle a une réputation encore aujourd'hui. Les pauvres, ils ne se sont pas débarrassés de ce fléau. Mais il y a eu une époque où certes, on a nommé des policiers là, d'ailleurs, et ils ont tout changé. Ils ont dit, nous, on est des incorruptibles. On ne se laisse pas acheter. Et pourtant, la mafia a essayé, ils ont tout essayé, ils ont dit non. Et c'était un groupe soudé entre eux, et s'il y en avait un qui commençait à faillir, on est incorruptible. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à coincer Al Capone, surtout avec je crois que c'est avec ses déclarations d'impôts, voilà. Mais le chrétien, il doit avoir ce goût-là d'être incorruptible. Ah, il y a des tentations qui viennent tous les jours, Mais quand il y a une tentation qui arrive, il dit « je suis incorruptible ». Et plus on est incorruptible, plus on est fort dans sa foi. Et plus on est fort, plus on a une influence bénéfique sur les autres. Quand on est un chrétien qui se fait avoir à chaque fois dans le péché, qui retombe à chaque fois, on va pas loin. Et vous me dites « mais c'est dur, les tentations sont fortes ». Et c'est vrai, les tentations sont fortes. Mais il y a la promesse de Dieu. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » C'est-à-dire, les tentations sont fortes, mais pas au-dessus de nos forces, pas surhumaines. Et avec la tentation, Dieu préparera le moyen d'en sortir. Le Seigneur nous permet d'affronter, de vaincre les tentations, comme le Seigneur Jésus l'a fait avant nous, et comme d'autres chrétiens et croyants l'ont fait avant nous. J'aime bien l'histoire de Joseph dans la Genèse. Lui, il en a eu des tentations. Il avait la tentation d'abord d'être dans la haine et l'amertume. Quand ses frères l'ont vendu en esclavage par jalousie, il aurait pu passer le restant de sa vie à ruminer, à dire « je vais leur faire payer et je vais les tuer à mon tour ». Tout ce qu'il a ruminé dans sa vie, c'est de pouvoir retrouver ses frères et les amener à une réconciliation avec lui. Mais après ça, il a été vendu à un chef égyptien, un général égyptien, et pendant qu'il était seul dans la maison, parce que le général était en campagne militaire, tout seul, la jolie femme de ce général vient vers Joseph et dit « Tu es mignon, est-ce que tu ne voudrais pas coucher avec moi ? Personne ne le saura. » C'est facile pour un homme de tomber dans ce péché. Il aurait pu dire « Allez, personne n'y verra rien, le maître est là, toujours absent. » Et il a dit « Non, je ne ferai pas un tel péché contre le ciel et contre mon patron. » Il avait cette incorruptibilité, Joseph. C'est un exemple d'incorruptibilité. Et il a été en prison à cause de ça. Alors là, on peut dire « Seigneur, c'est pas juste. Voilà un homme incorruptible et tu le fais aller en prison. » Mais c'est pas Dieu qui l'a envoyé en prison, mais c'est Satan qui a voulu qu'il aille en prison. Mais en prison, il a été encore une bénédiction. On a fini par lui confier les clés. Ce qui est le comble, de confier les clés de la prison aux prisonniers. Et en prison, il ne s'est pas morfondu, il n'a jamais dit un mot contre Dieu en disant « Mais pourquoi c'est injuste ?» Non, jamais. Il a continué son chemin, les yeux sur le Seigneur. Incorruptible, Joseph. Notre troisième arme, là, que j'aime beaucoup, c'est combattre d'une même âme. Il faut qu'on se soutienne les uns les autres. Encore une fois, je le rappelle, on est un corps. On est le corps de Christ. Un livre que j'aime particulièrement dans l'Ancien Testament, c'est le livre de Néhémie. Néhémie était en captivité. C'était un juif croyant qui était chez des ennemis. Il était l'échanson du roi. C'est lui qui servait le vin. Un poste important à l'époque chez un roi. Et Jérusalem était détruite. Il y avait quelques habitants qui vivaient là un peu comme des Romanichels, un petit peu, hein, dans la ville. Les murailles étaient défaites et tout le monde était découragé dans Israël. Et Néhémie, il a eu des mauvaises nouvelles. On a dit, tu sais, c'est catastrophique. La situation est de pire en pire. Et ça a touché son esprit. Il s'est mis à prier, à dire, Seigneur, nous avons péché, nous méritons ce qui nous arrive, mais tu as promis que si on revenait à toi, tu nous relèverais, tu nous ramènerais dans notre pays. Seigneur, fais quelque chose. Et sa prière de tout cœur a été exaucée quasiment immédiatement. Il est allé servir le vin et le roi a vu qu'il était triste. Et le roi a dit, mais pourquoi tu es triste, Néhémie? Est-ce que tu as un chagrin de cœur? C'était touchant de la part du roi de s'inquiéter de ses chagrins d'amour. Mais Néhémie a dit, pas du tout. Je suis triste parce que mon peuple est dans la désolation, ma ville est dans la désolation. C'était les ennemis du roi, hein. C'est le roi qui les avait abattus. Hein. Et le roi a dit, qu'est-ce que tu veux, Néhémie? Alors la Bible dit qu'il a prié et il a dit, donne-moi des lettres pour que j'aille rebâtir les murailles. C'était osé de demander une chose pareille. Et le roi lui a dit, tu les as. Et il l'envoie même avec des officiers, avec des soldats pour le protéger parce qu'il y avait plein d'ennemis dans la région. Et il ameute tous les frères juifs qu'il a trouvés. Il a dit, les amis, on va rebâtir. Allez, tous les anciens de Jérusalem, retrouvez votre maison, remettez-la en état et on va travailler sur la muraille pour que la ville soit protégée. Et ils ont rebattu la muraille en combien de jours, est-ce que vous savez? 52 jours. Même aujourd'hui, avec des tractopelles, hein, je ne sais pas si on arriverait à faire ça en 52 jours. Le texte de Néhémie raconte comment chacun, à sa porte, à sa maison, devant sa maison, a rebâti la muraille avec ses outils, comme ils ont pu. Ils avaient les ennemis qui venaient les harceler tout le temps. Alors, ils avaient à un moment une épée dans une main, hein, et la truelle dans l'autre, comme on dit. Ils étaient toujours prêts à se défendre. Et Néhémie, avec sa foi, il a encouragé les autres. Et ils ont combattu d'une même âme. Et ils ont fait un travail extraordinaire. Si Néhémie était allé tout seul à Jérusalem en disant « Bon, il faut que je refasse cette muraille. Ben, » dans 15 ans, il serait encore là, hein, à poser une pierre. Mais tous les frères se sont mobilisés. Et on a besoin de ça aussi. C'est pour ça qu'il y a des églises. C'est pour que les frères se mobilisent dans chaque église pour l'évangile. Et il faut combattre ensemble parce que des fois, il y en a un qui tombe. Satan nous vise. Hein. Il y va, c'est un lion rugissant. Alors, il y en a, ils les visent avec la maladie, d'autres avec le chômage ou une épreuve quelconque. Et il veut nous décourager. Alors, c'est là qu'il faut intervenir. On relève son frère. J'ai toujours gardé en mémoire cet épisode de mon service militaire. On avait fait une très longue marche de plusieurs jours. On faisait 30 ou 40 kilomètres par jour pendant 3 jours avec un sac de 25 kilos. Et les mauvaises chaussures, hein, de l'armée, il faisait chaud. Et il y a un moment, il y en a un qui était un peu en surpoids et qui n'était pas sportif du tout. Et il avait tellement mal aux pieds. Les chaussettes étaient terribles à cette époque-là aussi. Ça vous faisait des cloques partout. Il a dit, moi, je ne peux plus, les amis, j'en peux plus. Je ne peux pas faire un mètre de plus. Et il s'est assis et il a pleuré. Et on s'est retrouvés là, les gars, on a encore 20 kilomètres à faire, faut y aller. Hein, bon. Et bien, tout de suite, il y en a un qui a dit, bon, moi je porte son sac pendant 1 kilomètre, qui continue, moi. On l'a remis debout, il s'est appuyé sur un des hommes et on s'est relayé. Donc il y en a qui avaient 2 sacs, hein, pendant 1 kilomètre. Et j'étais touché, j'ai dit, voilà, ça c'est l'aide, la solidarité des soldats. Et on a besoin de cette solidarité dans l'église. S'il y en a un qui tombe, il ne faut pas dire, oh, bah, lui, il était plus fragile, allez, reste là, nous, on continue. Non, s'il y en a qui tombe, on l'aide et on le relève. Il y a des chrétiens qui vont plus vite que d'autres, mais il faut qu'ils sachent un peu ralentir pour aider les retardataires. Et la prière les appels téléphoniques, les visites, les encouragements, les petits mots, tout ça contribue à l'encouragement. Avec le Seigneur, nous aurons la victoire. C'est Jésus qui a dit à Pierre, « Sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » J'ai toujours interprété ce verset comme disant que l'église résistera aux assauts du diable. On va être assailli, mais on va résister. Alors que c'est l'inverse qui est dit. C'est la mort, le séjour des morts, c'est la mort. Ce n'est pas le diable, c'est la mort dont il parle. La mort ne résistera pas devant l'église, puisqu'il dit les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'église. C'est que l'église apporte la vie. Comment elle apporte la vie? Parce qu'elle apporte l'évangile de vie. Et elle est plus forte que la mort. Et la mort elle-même est terrassée quand on apporte la vie. Il y a plein de choses de mort qui nous entourent, plein d'attaques d'anti-chrétiens, de découragement, mais on est plus fort parce qu'on a la vie du Seigneur. Cette vie, rien ne peut l'arrêter. Et c'est notre victoire avec Jésus-Christ. Nous devons être ensemble, combattre d'une même âme pour la foi de l'Évangile sans se laisser effrayer par les adversaires. Et le mot là, sans se laisser épouvanter par les adversaires. Nous n'avons pas peur parce que nous sommes avec le Seigneur. Il y a une grande ville là devant nous, 300 000 étudiants, 3 millions d'habitants à Paris même, sans parler de la banlieue. Nous sommes un tout petit groupe. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens à Paris, mais avec la grâce de Dieu, on peut faire beaucoup. À nous d'avoir cette foi et cet esprit de victoire, que le Seigneur nous le donne. Tu as un cantique pour
avant de me préparer à la scène.